Chapitre 6. 10 millions sous un pont. Après la visite du juge d'instruction de Londré, le procureur général s'était dit « Allons, je puis bien attendre jusqu'à midi. » Et, du dossier qu'il allait passer à ses bureaux, il enleva l'ordre relatif à l'affaire Charfland. À midi un quart, l'huissier entra. « Monsieur le procureur général, c'est le chef de la sûreté qui demande à vous parler d'urgence. » Qu'il entre. Le haut personnage parut. Il était encore sous le coup d'une émotion profonde qui ne pouvait échapper à l'œil exercé du magistrat. « Monsieur le procureur général, je suis envoyé par monsieur le juge d'instruction Delandré, qui vous prie, vous supplie de bien vouloir m'accompagner jusqu'à lui. Je ne puis vous en dire davantage, mais je vous en donne ma parole. Vous ne regretterez pas votre déplacement. J'ai un taxi qui m'attend à la porte. » Quelque peu intrigué, le magistrat répondit, après une courte hésitation, « Je vous suis. » Ils montèrent dans la voiture, dont le moteur ne s'était pas arrêté. Le chef de la sûreté lança ces mots au chauffeur. « D'où nous venons ?» Pendant le court trajet, les deux hommes demeurèrent silencieux. Quand le taxi stoppa, le procureur descendit et, levant les yeux, s'aperçut qu'il était devant la caisse des dépôts et consignations. « Qu'est-ce que cela peut signifier ?» se dit-il. Docile, il suivit le chef de la sûreté qui se mettait à ses ordres. Dans un petit salon, les nouveaux arrivés rejoignirent M. Delandré, porteur d'un gros paquet et accompagné d'un greffier et de deux inspecteurs de la préfecture de police. Le juge s'inclina. « Je vous remercie d'être venu, monsieur le procureur général. » Mais pour le dépôt que je veux faire en votre présence, il manque encore un témoin d'importance. Je vous demanderai de bien vouloir l'attendre. » À peine avait-il parlé que la porte s'ouvrit. Un monsieur d'allure respectable parut, accompagné d'un autre inspecteur qui, s'adressant au juge, dit simplement « Le voici. » Monsieur Delandré prit la parole. « Vous me reconnaissez, n'est-ce pas, monsieur Delandré ?» juge d'instruction de l'affaire Charfland. Oh, parfaitement. Vous m'avez assez interrogé sur les conditions de la remise à G.O.L. Lee des 10 millions du chèque Téric. » Le juge, se retournant alors vers le procureur général, procéda à la présentation. Monsieur Alivier, chef de service aux établissements financiers l'Universel Crédit. Monsieur le procureur général. Les deux hommes se saluèrent. « Monsieur Alivier, » reprit le juge, « si l'on vous montrait la serviette dans laquelle G.O.L. Lee a emmagasiné les 10 000 billets de 1 000 francs que vous lui avez remis, pourriez-vous la reconnaître ?»« Je le crois, mais ce que je reconnaîtrais sûrement, c'est la disposition originale des billets dans la serviette. Depuis près de 20 ans que je suis à l'Universel Crédit, c'est la première fois que j'ai assisté à l'enlèvement, sous cette forme, d'une aussi grosse somme. Et, sans y attacher d'importance, car l'opération était absolument régulière, j'ai remarqué bien des détails. Alors, monsieur, veuillez vous rendre compte. » Le juge posa sur une table le paquet dont il était porteur. Il enleva le journal qui l'entourait et une enveloppe caoutchoutée, mouchetée de taches de moisissure, apparut. Cette enveloppe étant collée, il fut obligé de la couper avec un canif. Il en sortit une sorte de sac en toile cachou, en forme de musette avec courroie. Cette musette ouverte, il en tira une grande serviette en maroquin noir. « C'était tout à fait cela !» s'exclama Alivier. La serviette fut dépliée en deux. De grands rabats fermaient chacune des deux poches. « Ah, mais c'est extraordinaire !» murmura Alivier. Puis, comme le juge allait ouvrir les poches, « Attendez, je me rappelle fort bien que la courroie de l'un des rabats était entrée facilement dans son passant, alors que pour l'autre, G.O.L. Lee avait dû s'appliquer, le passant paraissant trop juste pour la courroie. « Nous pouvons vérifier, » répondit le juge, et avec douceur, il procéda à l'extraction des courroies. La première résista. Elle était serrée par le passant dans le sens de sa largeur. La seconde, au contraire, fut enlevée sans aucun effort. Les deux poches ouvertes, les assistants se penchèrent anxieusement. et aperçurent des liasses de billets de banque. C'est bien comme cela que Géo et Lee avaient disposé les billets, si pile, côte à côte. « Comptons, » dit M. Delandré, s'adressant à Olivier. « Les billets sont rangés comme nous le faisons. Ils sont réunis par 10. Par une épingle, 10 paquets de 10 sont réunis par un caoutchouc rouge. » Il fut bien compté 100 paquets ainsi définis. « Auriez-vous, » interrogea le juge, « d'autres particularités à me signaler
qui pourraient affirmer votre conviction
que ces billets sont bien ceux qu'a livré l'Universel Crédit au porteur du chèque signé A.H. Théric ?»«
Peut-être, hein, » répondit Olivier.
« Dans chaque paquet de 10 billets de 1 000 francs, nous avons l'habitude de placer le 3e et le 9e à l'envers par rapport aux autres. » La vérification faite sur quelques paquets pris au hasard prouva que cette particularité existait. « Monsieur Olivier, » déclara le juge, « veuillez faire votre déclaration. Greffier, écrivez. » Monsieur le juge d'instruction, « sauf le cas de coïncidence inexplicable, je reconnais cette serviette comme celle dans laquelle Géo Elli a rangé les 10 millions en billets de 1 000 francs, ici présents, qui ont été remis en paiement du chèque Théric. » Bien, maintenant, en votre présence, monsieur le procureur général, je vais déposer cette somme à la Caisse des dépôts et consignations. Je garderai la serviette et les enveloppes comme pièce à conviction. Quelques instants après, le dépôt des 10 millions de francs était fait à la caisse. Le reçu était libellé, à la requête du juge, sous la forme suivante. La Caisse des dépôts et consignations déclare avoir reçu ce jour, des mains de monsieur le juge d'instruction Delandré, en présence de monsieur le procureur général, de monsieur le chef de la sûreté, de monsieur Olivier, chef de service à l'Universel Crédit, la somme de 10 millions de francs en billets de 1 000 francs de la Banque de France. Cette somme, qu'il y a tout lieu de croire être celle qui a été versée par les établissements financiers de l'Universel Crédit à un nommé Géo Elli en paiement d'un chèque signé A.H. Théric, est consignée à la disposition du parquet général. Les divers acteurs de cette scène se séparèrent après avoir prêté serment de n'en rien divulguer. M. Delandré accompagna son chef jusqu'à son bureau. « Monsieur le procureur général, me permettez-vous maintenant de garder l'instruction de l'affaire Charflande ? Les résultats de mon enquête de ce matin ont changé ma conviction en certitude indiscutable. Dans quelques jours, je pourrai vous faire assister aux aveux du coupable. M'accordez-vous maintenant le délai que je sollicite pour la bonne marche de la justice ? Monsieur le juge, la situation a en effet bien changé depuis ce matin. Les 10 millions retrouvés constituent un commencement de preuve. Je vous accorde 1 semaine. Je m'expliquerai avec le garde des Sceaux. Merci, monsieur le procureur général, mais dans l'intérêt de l'instruction, je vous prie de bien vouloir ne pas signaler explicitement ce commencement de preuve que j'ai découvert. Cela pourrait compromettre le succès de ce qui me reste à faire.
C'est entendu. À propos, où avez-vous trouvé les 10 millions ?
Sous un pont, répondit laconiquement le juge.
Les deux hommes se quittèrent. Monsieur Delandré, radieux, le procureur général, pensant aux explications qu'il donnerait au ministre. Il était heureux, au fond, de penser que le juge, qu'il estimait personnellement beaucoup, pourrait se tirer indemne de cette affaire qu'il avait mis en fâcheuse posture. Monsieur Delandré lança à Max Semper, à New York, un câblogramme ainsi libellé. « Prenez d'urgence, premier paquebot. » Quelques jours se passèrent, au cours desquels Monsieur Delandré se surmena. Il parcourut bien des lieux, vit des quantités de gens, fit répéter de véritables rôles. On l'aperçut même dans une grande maison cinématographique. Pendant ce temps, l'inculpé et son avocat n'étaient nullement au courant des étranges démarches du juge. Quant à l'opinion publique, elle avait été calmée par une note de la chancellerie affirmant que dans la huitaine, l'affaire Charflande serait définitivement réglée. 6 jours après le dépôt des 10 millions, M. Delandré fit notifier à Charflande par un greffier, à son avocat par un secrétaire, que le lendemain aurait lieu la reconstitution du crime. il téléphona la nouvelle au procureur général en lui laissant entendre que cette reconstitution ferait époque dans les annales criminelles. Le procureur, comme le pensait le juge, manifesta l'intention d'y assister. « Rendez-vous à 8 h du matin à la pension de famille, » lui indiqua le juge. « Et, ajouta-t-il, cela durera toute la journée. Le déjeuner est prévu, ne vous inquiétez pas. » Charfland n'avait rien compris à la notification qui lui était faite. Il se perdait en conjectures, mais son sang-froid et son aplomb ne l'abandonnaient pas. Il avait reçu la visite de son avocat, abasourdi. Il lui raconta que la notification venait de lui arriver sans que rien ne la fît prévoir. Selon lui, il s'agissait d'une farce ou d'une grossière intimidation. Quoi qu'il en fût, il n'y avait pas à s'en préoccuper. Sa conscience intacte serait déjouée le prétendu piège qu'on voulait lui tendre. L'avocat s'était rendu ensuite chez le juge et lui avait manifesté sa surprise de cette décision inattendue, aucun fait nouveau n'ayant surgi à sa connaissance. « Maître, lui avait répondu le juge, la manière dont le crime a été commis est connue, mais cette révélation m'a été faite indépendamment de l'inculpé. Celui-ci a pu vous dire qu'aucun interrogatoire ne lui a été adressé en dehors de vous. La reconstitution annoncée résumera toute l'instruction. La vérité éclatera. Je ne puis vous en dire davantage. » Un peu courroucé par ce qu'il venait d'entendre, le célèbre avocat le prit de très haut. « Attention, monsieur le juge, depuis 6 mois, vous reteniez, au mépris de toute justice, un innocent dans une geôle. Au moment où, sous la pression de l'opinion publique, vous allez ou relâcher mon client ou vous voir dessaisi de l'affaire, vous voyez que je suis bien informé, vous voulez essayer de jouer une comédie d'intimidation qui ne peut aboutir puisque vous n'avez pas mis la main sur le coupable. Prenez garde, cette dernière action va augmenter considérablement les charges morales qui pèsent sur vous au sujet de la façon dont vous avez mené cette instruction. L'opinion publique, quand elle sera mise au courant, et elle le sera, je vous le garantis, manifestera d'une façon telle qu'un plus fort que vous serait balayé. Prenez garde. Maître, demain, à 7 h, vous aurez changé d'avis. La reconstitution du crime, qui a coûté la vie à toute la famille Théric, se fera demain même. Je vous confirme que le rendez-vous est à 8 h, à la maison de famille où a eu lieu l'assassinat. Je vous préviens que cette reconstitution durera une journée entière. Le déjeuner est prévu. Si vous voulez nous faire l'honneur de le partager avec nous, vous serez le bienvenu. » L'avocat éluda d'un geste cette courtoise invitation et répondit simplement. « Je serai demain à 8 h, avec mes 2 secrétaires, à la pension de famille. » Le juge reçut ensuite le détective américain Max Semper, qui s'était déjà présenté à lui la veille et qui l'avait prié de revenir. « Monsieur Max Semper, voici le moment de vous dire pourquoi je vous ai câblé de traverser l'Atlantique. J'ai les preuves absolues, écrasantes, de la culpabilité de Charfland. Mais le plus curieux est que ni lui ni son avocat ne connaissent un premier mot de ces preuves. Il ne m'est pas possible de vous mettre au courant des circonstances qui m'ont amené à cette grande découverte. Celle-ci, faite et vérifiée, au lieu de recommencer une instruction minutieuse qui demanderait bien du temps et qui pourrait permettre à l'accusé d'inventer une défense au fur et à mesure que les charges lui seraient signifiées, j'ai décidé de tenter, sur les lieux mêmes, une reconstitution du crime avec les faits saillants qui l'ont précédé et qui l'ont suivi. L'inculpé, voyant coup sur coup se dérouler devant ses yeux toutes ses actions, ne pourra garder son sang-froid. Il se trahira, avouera, car il ne pourra lui venir à la pensée que cette mise en scène détaillée a pu être organisée sans que des témoins irrécusables aient été entendus. Il faut qu'il avoue. Si j'y tiens, vous allez être étonné, c'est que, s'il n'avouait pas, je serais sans armes contre lui, bien que je puisse vous garantir la véracité de tous les détails de l'affaire. Lorsqu'il se rendra compte que j'ai pu savoir même ce qu'il pensait au moment où il accomplissait certains de ses actes, le vertige le prendra. Il avouera tout. Je me suis assuré la collaboration d'un phonocinématographe qui tournera les principales scènes. Comme cela, rien ne nous échappera des divers mouvements et exclamations que provoquera chez l'accusé la mise en scène de demain. Ce sera très intéressant, vous verrez. Mais enfin, ce n'est pas pour cela que je me suis permis de vous câbler de venir. Après les aveux, et sous le coup de la dépression profonde où se trouvera notre homme, je crois qu'on pourra obtenir de lui des révélations sur la fameuse « bande invisible » dont vous le soupçonnez de faire partie. Cela sera alors votre affaire. Si le résultat vous satisfait, je vous aurai remercié ainsi du grand service que vous m'avez rendu en me permettant d'arrêter le coquin et de le maintenir en prison sous prétexte d'attendre la fameuse commission rogatoire que je vous avais envoyée. Enchanté, Max, son père, remercia M. de Landré et essaya, mais en vain, de savoir comment le juge avait enfin découvert la vérité. Ils se quittèrent en se donnant rendez-vous pour le lendemain matin.